Donc, on va parler de mes astuces de moi, Scrum Master. Alors, je suis Scrum Master, mais pas que, pour varier les rétrospectives. Bonjour, je m'appelle Séverine. Je vous ai mis ici un petit peu mon curriculum abrégé. Donc, je viens de Nantes. Je suis coach agile pour l'entreprise Zenica sur Nantes. N'hésitez pas à prendre les petites coordonnées si jamais vous voulez continuer le débat ou la conversation plus tard. C'est avec grand plaisir que je réponds en fait aux personnes qui me sollicitent. Alors, pourquoi cette conférence? Je ne sais pas exactement quel est votre niveau sur Scrum, Agilité, etc. Donc, je vais expliquer rapidement. C'est quoi une rétrospective? En Agilité, on a tendance à travailler en itération, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des gros blocs en fait, de fabrication, mais on va les découper en petits morceaux. On va itérer. Et puis, une des bonnes pratiques de l'agilité, c'est l'amélioration continue. Pour l'amélioration continue, qu'est-ce qu'on va faire? On va se remettre en question régulièrement pour essayer de voir si on travaille bien, si on peut travailler mieux, si on peut s'améliorer. La réponse est oui, on peut toujours s'améliorer. On n'est pas forcé de chercher forcément le négatif, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut réadapter éventuellement pour être meilleur. La rétrospective, donc, ça se passe très régulièrement. Et comment ça se passe? Comme ça. La trame de la rétro, c'est tout d'abord, on va recueillir des données sur le dernier sprint, donc la dernière période de travail. Et puis, on va générer des idées par rapport à ces données qu'on a recueillies. On va décider d'actions qu'on va mettre en place pour la prochaine itération, pour s'améliorer, etc., etc. La rétro est généralement entourée par une ouverture et puis une clôture. On verra ça au cours de la conf. Voilà ce que ça m'inspire. Ça tourne en rond. D'autant plus, je vais prendre ma souris, ce sera plus simple. D'autant plus qu'il faut toujours en fait suivre cette fameuse trame qui est, si je vais un petit peu plus loin, trouver les choses positives lors de la dernière itération, trouver les points négatifs, essayer d'y trouver des solutions, les transformer en actions, puis voter pour quelle action on va faire lors du prochain sprint, etc. Voilà. Vous l'avez vécu, ça, normalement, si vous êtes là. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? J'essaye de designer mes rétros. C'est-à-dire, j'essaye de faire des choses différentes à chaque fois. Je veux que ma rétro, à chaque fois, elle soit unique. Sauf que mes équipes font des sprints de 2 semaines, ce qui me fait 26 rétros par an. J'ai 3 équipes, parce que je suis coach agile, donc je peux faire 3 équipes. C'est ce que dit mon client. Donc, ça fait 78 rétros par an, soit une tous les 2,8 jours de travail, vacances comprises. Et en plus, à chaque rétro, je dois faire quelque chose de neuf et d'unique. Voilà ce à quoi je ressemble au bout de quelques mois. Alors, je vous rassure, si j'ai fait cette conf, c'est parce que c'est pas possible de faire tout le temps des trucs de fou. C'est pas possible, sinon je passerai ma vie à organiser des choses, à animer et jour et nuit. Il y a des astuces, donc je vais vous les présenter ici, pour essayer de varier les choses, de faire en sorte que vos équipes ne s'ennuient pas, mais sans pour autant y passer vos nuits à travailler. Et puis, de temps en temps, on va faire une grosse rétro qui garde l'effet « waouh ». Et ouais, elle fait des trucs en vrai, le Scrum Master. Donc, une petite intro. Comme une rétrospective, on va faire une intro. Et ces intros, comme vous avez peut-être fait en bas, le poney, ça s'appelle l'icebreaker. Je vais vous présenter quelques icebreakers qui fonctionnent très bien pour moi. En commençant par celui-ci, le Candy Introduction, qui est aussi le jeu du Skittles ou le jeu des M&M's. Peut-être certains ont déjà joué. Comment ça se passe? J'arrive bien avant la rétro. Je place un bol de Skittles sur la table. Les gens qui vont participer à la rétro vont s'asseoir autour de la table, tranquillement, commencer à discuter, etc. Puis je vais leur demander, assez innocemment, de prendre 5 bonbons dans le bol. 5. Prennent leurs bonbons, leur donnent aucune consigne. Prennent la même couleur, pas la même couleur, ce qu'ils préfèrent, peu importe. Une fois qu'ils ont choisi leurs bonbons, je vais dévoiler un tableau qui va contenir les 5 couleurs de Skittles et puis en face un thème. Donc les thèmes que j'aime bien utiliser, ton endroit préféré sur Terre, ton job de rêve, ton meilleur souvenir, tes passions ou hobbies. Ça peut être aussi plus sérieux sur le sprint, ton ressenti sur le sprint, mais je ne suis pas fan de ça. En introduction, j'aime bien que ce soit assez fun. Et le joker qui est obligatoire, il faut raconter quelque chose sur toi, de drôle, si possible, petite anecdote. Ce jeu sert très bien en team building. Quand les gens ne se connaissent pas, c'est un super jeu en fait pour commencer à se connaître. C'est un jeu magique. Il se passe toujours quelque chose. Quelques petits exemples. Enfin, un exemple qui était très flagrant, que j'ai vécu il y a à peu près un an. Une personne avait pris le Joker et donc a cherché qu'est-ce qu'elle pouvait dire sur elle. Cette personne, c'était un développeur, très propre sur lui, jamais un mot plus haut que l'autre, un peu le gendre idéal, hein, avec sa petite chemise, etc. Enfin, super classe, quoi. Et il nous a dit, texto, moi, une fois, j'ai joué de la guitare, tout nu, place du commerce. La place du commerce étant la plus grande place de Nantes. Et tout le monde est resté assez stupéfait, hein, ça se voyait pas sur sa tête forcément. Et depuis, en fait, ce gars qui était vraiment assez réservé et très propre sur lui, y a toujours la blague en fait, quand est-ce que tu viens nous jouer de la guitare tenue, etc. Donc il se passe toujours des trucs avec ce jeu. Une fois aussi, une personne avait pris 5 fois la même couleur, et cette même couleur était le Joker. Elle a passé une sale semaine derrière. Un autre petit jeu d'introduction que j'aime bien, que j'utilise aussi en clôture, éventuellement, c'est le gift game. Alors, je tiens tout de suite à m'excuser pour les anglicismes. Déjà, il y a beaucoup d'anglicismes dans l'agilité. Et en plus, moi, je travaille en bilingue actuellement sur français-anglais. Donc, je m'en excuse, il y aura beaucoup de reste. Un petit cadeau. Offrez un cadeau virtuel aux personnes qui sont autour de la table. On se met autour de la table et vous choisissez, vous, Scrum Master, soit on offre un cadeau à une personne, soit on offre un cadeau à toutes les personnes, à vous de voir. Ce cadeau, il peut être virtuel. Je peux vous dire, madame, par exemple, je vais vous offrir un plaid parce que vous avez l'air d'avoir froid. Je l'ai, vous voyez. Oh là là, il doit y avoir un truc. ça peut être un petit cadeau dessiné. Ça, c'est sympa parce qu'on peut les garder, les accrocher autour de son bureau et tout ça. Moi, j'avais eu un hélicoptère pour éviter les bouchons parce que j'habite loin de là où je travaille et que tous les matins, je mets beaucoup de temps à venir. Donc, on m'a offert un hélicoptère. Sympa. Donc n'hésitez pas à utiliser ce jeu en ouverture de sprint, ou en clôture. Vous avez le droit d'intervenir si jamais vous voulez pendant la conf. Donc ça c'était l'introduction, le petit energizer, etc. Maintenant on va passer au sérieux, le corps de la rétro. Alors comment on fait ? On va s'inspirer de tout ce qui peut être écrit ici. Pour tricher un petit peu et puis se trouver des sujets un petit peu simples. Alors allons-y. On va d'abord utiliser l'actualité pour designer nos rétros. L'actualité peut nous aider pour illustrer ces choses qui se passent bien ou mal par rapport au monde. Exemple, novembre 2016, j'ai fait une rétro Trump-Clinton. Alors comme je disais en intro, une rétro, c'est trouver des choses positives, trouver des choses négatives, puis des actions. Mon positif, à vous de voir, quel était mon positif, quel était mon négatif. On va parler politique, hein, ça va nous fâcher. Quelques petites astuces, l'image, elle est super importante. Moi, je travaille beaucoup avec des logiciels de retouche d'images, avec des banques d'images gratuites, parce que ici, en fait, par rapport aux photos que vous mettez, vous pouvez un peu influencer l'ambiance de la rétro. Donc c'est important, il faut le garder en tête. Juin 2018, l'année dernière, j'ai profité de l'actualité, qui était le réchauffement des relations entre les deux Corées, pour faire cette rétro Corée du Nord, Corée du Sud. Donc là aussi, le négatif étant la Corée du Nord, parti pris. Hein. C'était très drôle parce que quand vous arrivez dans cette salle de rétro, les équipes n'ont pas vraiment l'habitude. S'attendent à ce qu'il y ait des post-it, des plus et des moins. Et quand ils arrivent et qu'il y a un gros paperboard avec ses photos affichées, déjà, il y a un petit temps d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe ? Donc l'effet est toujours assez sympa. Puis ça nous a permis en plus de faire de la géographie, parce que peu de gens sont capables de mettre la Corée du Nord sur une carte, mine de rien. Donc c'était chose faite. J'utilise la saison pour illustrer le positif et le négatif. On va faire un petit test. Connaissez-vous les marronniers ? Soyez pas timide, on reconnaît presque les prénoms de tout le monde. Le marronnier est un arbre, certes. C'est aussi un procédé, c'est en journalisme, un événement qui revient tout le temps, tous les ans. Voilà, donc des marronniers. On va faire l'année. On est en mi-mars. Quel est le prochain marronnier ? Ah, il y en a un avant. Pâques. Il y a le 1er avril, exactement. Le muguet s'en éteint. Ensuite, on est déjà en mai. Si on avance un petit peu en mai, qu'est-ce que c'est le marronnier ? Les ponts de mai, exactement. Ensuite, on va arriver en juin, le marronnier de juin. Le bac, oui, il y a aussi le Hellfest. Mais bon, ça, c'est juste pour moi. Ok, on est au bac, donc là, on est en juillet. C'est quoi le marronnier de juillet ? Les vacances, oui, les bouchons des vacances, pourquoi pas. Très bien, en juillet. On avance, on est en août. Qu'est-ce qui se passe début août ? Fin juillet, début août ? Le chassé-croisé des vacances, bien joué. On avance, fin août, on est début septembre. La rentrée des classes, bien joué. On avance, octobre. Halloween, très bien. Les impôts. Okay. Halloween, oui, pourquoi pas. Novembre, pas grand-chose en novembre. Et puis après, c'est décembre, ça passe pas grand-chose en décembre, si. La Saint-Nicolas, pourquoi pas, si on est de l'Est. Et Noël, ah oui, il y avait Noël. Le premier de l'an, ensuite janvier, février. Vous avez rien là en janvier ? La galette des rois, les février, les crêpes, la chandeleur, le carnaval, pourquoi pas, mardi gras. Bon, c'est bon, on a fait l'année ? Vous êtes d'accord avec moi ? Il se passe plein de trucs dans les marronniers. Je vous ai mis là des fois que vous ne les trouviez pas, mais bravo. Donc, utilisons la saison. Allons-y. Juillet 2018, la rétro-canicule. Pareil, hein, imaginez l'effet des gens qui rentrent dans la salle de rétro. J'adore ce petit bonhomme qui a l'air vraiment très très mal. J'adore cette photo, j'utilise très souvent. Donc voilà, l'astuce ici, c'est un peu la même. Hein. Choisissez vos photos. Il faut que ce soit fun, il faut que ce soit percutant. Il faut que ce soit drôle dès le départ. Décembre 2016, la classique rétro de Noël. Alors comme le Scrum Master n'a rien à faire, il fait du coloriage et nous présente cette petite rétro assez sympa. J'étais fière de moi, j'ai fait des lutins qui étaient les choses à améliorer vont aller sous la colonne lutin. Les choses à arrêter vont sous la colonne Grinch, à continuer sous la colonne Père Noël. Et on mettait dans la hotte les post-it des améliorations, des actions d'amélio qu'on allait prendre. Bon, c'est tout simple.
Oui.
Je vais répéter la question. Alors, en effet, toutes ces illustrations servent à remplacer les colonnes moins plus, tout simplement. Voilà, la hotte, pourquoi pas, on fait des cadeaux, on prend les actions, et puis c'est vraiment pas plus loin que ça. Mais juste ça, en fait, permet d'éviter une monotonie, parce que si toutes les deux semaines, on a des plus et des moins, c'est vraiment fatigant au bout d'un moment. On continue avec les jeux. Alors, jeux de société qui peuvent servir pour aussi les rétros. Exemple, la rétro Dixit, qui devient maintenant un peu classique pour les gens qui ont l'habitude. Dixit est ce jeu de société qui se joue avec des cartes. Alors, j'y ai jamais joué au Dixit en vrai, mais par contre, j'y ai joué en rétro. Il y a 80 cartes, je crois, qui sont très jolies. Hein. C'est vraiment c'est très artistique. Et ce qui est sympa avec, c'est qu'on va mettre toutes ces cartes sur une table, on va vraiment toute face visible, et puis on va poser une question aux gens. Exemple, comment tu t'es senti sur ton dernier sprint ? Ou comment tu t'es senti sur l'année dernière ? Ou comment sens-tu le futur dans cette équipe, etc. Les personnes vont piquer une carte et puis expliquer en fait par rapport à la carte qu'ils ont choisie. Bah voilà, j'ai choisi ça parce que ça représente, etc. C'est super parce que les gens qui ont du mal à exprimer des sentiments, il y en a beaucoup, bah ici en fait trouvent un paravent avec la carte et peuvent s'exprimer par rapport à la carte et donc moins par rapport à eux-mêmes. Ça marche super bien. Autre chose, la rétro Géopardie, qui est aussi maintenant un petit peu un classique d'agilité. Donc vous pouvez avoir votre transformation, le fantasme du présentateur télé. Allez, allons-y, je vais devenir présentateur télé pendant 2 heures. Voilà, c'est ce monsieur qui est très célèbre aux États-Unis. Le Géopardi, vous avez sûrement vu quand vous étiez petit, il y a des cases avec des réponses. Il faut trouver la question. Donc, vous allez demander à vos équipes, pense à quelque chose qui s'est passé durant le sprint, écris la réponse, et puis les autres vont essayer de deviner la question. C'est très drôle, hein, parce qu'en général, ça part un petit peu en live. Donc, c'est un super jeu à faire aussi. Je me sers aussi des jeux sérieux. Peut-être que vous avez entendu parler les Innovation Games, qui sont. Il y a une formation là-dessus, hein, c'est un peu un business aussi. mais qui sort quand même des jeux assez intéressants. Exemple, la rétro Show and Tell. Le Show and Tell, c'est, le principe, c'est de faire une interview d'une personne. Donc moi, facilitateur, je vais interviewer une personne que je vais penser pertinente par rapport à ma problématique. Et puis, les gens en face vont s'asseoir, vont écrire sur des post-it les verbatim de ce que dit la personne interviewée. Le verbatim, c'est exactement ce qu'elle a dit, la façon dont elle l'a dit. On ne change pas les mots. Donc, je vais vous raconter juste l'histoire. J'avais fait ça une fois avec une équipe qui avait des soucis avec un chef de projet. Donc, c'était une équipe agile, mais avec un chef de projet un peu à l'ancienne. Chef de projet qui venait un petit peu relever les compteurs régulièrement, qui gueulait parce qu'on était en retard, etc. Donc ça se passait pas bien entre l'équipe et chef de projet. Donc j'ai décidé de briser la glace. Et puis j'ai interviewé le chef de projet, qui était une chef de projet d'ailleurs. Et donc je l'ai fait venir en rétro. Donc il y avait les gens qui étaient assis, qui écrivaient, moi qui interviewais la chef de projet. Et puis j'espérais, disons qu'ils se parlent un petit peu entre eux. Et finalement ça a été assez magique, ça aussi. Les équipiers se sont rendus compte que la chef de projet, en fait, si elle faisait ça, si elle venait tout le temps leur demander des comptes, c'est qu'elle-même, elle avait beaucoup de pression au-dessus. Elle avait des budgets à gérer, elle avait du staffing à gérer, et puis bah, toute la pression des chefs, et que c'était pas si simple pour elle. Donc, en fait, cette compréhension mutuelle, ça a fait que l'équipe a été un petit peu plus sympa, on va dire, avec elle, a au moins mieux compris sa problématique et qu'elle s'est rendue compte aussi qu'elle exigeait beaucoup sur cette équipe. Donc, ça a été gagnant-gagnant, on va dire. La rétro speedboat. Alors, peut-être que vous la connaissez celle-là aussi. Un grand bateau qui représente l'équipe, une île qui représente l'objectif, une ancre qui représente les freins, le vent qui représente ce qui va nous aider à aller vers notre île. Voilà, format maintenant assez classique, hein, qui est assez sympa à utiliser et qui peut être très très varié parce que le bateau peut se transformer en plein de choses, en voiture, en fusée, en ce que vous voulez. Je vous montrerai après. Il y a aussi la rétro, mon pire cauchemar. Imaginez le pire pour pouvoir l'éviter. Mon pire cauchemar, vous allez vous projeter dans un an. Alors avec votre équipe, dans un an, on est super mal, hein. On est tous à deux doigts d'être virés. La boîte, elle est cool, c'est de notre faute, nos projets, ils sont morts. Enfin voilà, c'est vraiment c'est la fin du monde. Comment en est-on arrivé là? Puis on va revenir chronologiquement, parce qu'il s'est passé telle chose. Ok, pourquoi il s'est passé ça? Parce qu'on n'a pas fait ça. Ouais. Et donc, vous allez revenir en fait chronologiquement jusqu'à vous dire, pour éviter le pire, commençons à faire des petits pas maintenant. Elle existe aussi en positif, qui est Remember the Future, c'est le nom officiel des Innovation Games. Là, vous allez être dans un an la meilleure équipe du monde. Grâce à vous, la boîte a fait 200% de plus de bénéfices, etc. On est la meilleure équipe, on s'entend trop bien. Voilà. Comment en est-on arrivé là? C'est la même chose. Comme je vous disais, moi, j'aime bien changer les choses. Donc, si je fais un speedboat, ce ne sera pas un vrai speedboat. Ici, c'était ma version du speedboat. Le pitch, hein, c'était qu'on avait un PO, product owner, qui avait été bloqué pendant 2 jours à l'aéroport de New York à cause des intempéries, je crois. Et il n'avait pas pu assister à la rétro, donc on l'avait repoussé à la rétro. Du coup, pour me moquer de lui gentiment, j'avais fait ce faux speedboat que j'avais appelé le plane boat, ce qui ne veut absolument rien dire. L'avion représente l'équipe. Paris représente l'objectif. New York, l'aéroport, représente les freins qui nous laissent à terre. Le réacteur en orange représente les vents porteurs, ce qui va nous aider à avancer. Et les canards représentent les risques, parce qu'il paraît que les oiseaux dans les réacteurs, c'est pas terrible. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ça m'a coûté un petit peu de dessin sur ordinateur, et puis c'était super rigolo. Et on s'est bien moqué du PO pendant toute la rétro, c'était cool. En toute bienveillance. Et les rétro positives, ça c'est bien quand vous avez des soucis dans votre équipe ou quand il y a un gros ras-le-bol, quand il y a besoin de souffler un peu. La rétro bisounours, c'est interdit de dire des choses négatives. Donc tout ce qui va plus se passer de négatif, débrouillez-vous pour le dire en positif, en bisounours. Ça peut être aussi assez marrant et surtout ça fait du bien. La rétro en marche, typiquement française, la rétro en marche. Vous devez vous pouvez dire des choses négatives, mais que vous devez introduire... Non, pardon, doit être équilibré, pardon. Une chose négative doit être équilibrée par une chose positive, introduite par et en même temps, tel notre président. Okay. Exemple. Ouais, j'ai passé tout le sprint à rien faire parce que j'ai des problèmes de prod. Résultat, j'ai passé 2 jours à regarder mon ordinateur, hein, je pouvais rien faire. Mais en même temps, ça m'a permis de regarder le match Uruguay-Sri Lanka de la Coupe du Monde. Celle-là existe, hein, on me l'a faite au mois de juillet. Voilà. C'était peut-être pas Uruguay-Sri Lanka, je vous l'accorde. La rétro sur un point particulier. Donc en général, en rétro, on va revenir sur la dernière itération et puis parler de tout ce qui s'est passé. Donc des fois, il peut y avoir beaucoup de points et on n'a pas le temps de tous les traiter. Si vous voyez en tant que Scrum Master qu'il y a une problématique qui revient tout le temps ou alors qui a été vraiment importante sur ce sprint, ne parlons pas des autres sujets, parlons de celui-là. On va faire une rétro sur ce thème particulier. Et puis, plutôt que de survoler des petits thèmes et finalement de pas trop les améliorer, ce point-là qui nous a vraiment posé problème, on va aller au fond. Il n'y a que celui-là qu'on va traiter. Alors, des fois, les équipes, elles n'aiment pas parce qu'on ne parle pas des problèmes récurrents du dernier sprint. Mais c'est bien de temps en temps de se dire, ce problème, on l'éradique. Ça suffit, on en parle toutes les semaines, donc maintenant, on termine. Et puis, ça change aussi le format. On ne parle plus des plus et des moins, on parle de notre problème. Il y a les classiques, parce que des fois, on n'a pas forcément le temps. Ça marche très bien, les classiques aussi. Celle-ci que vous connaissez peut-être, l'étoile de mer à droite. Donc, on a nos thèmes, hein, continuer, plus, moins, arrêter, commencer. On a le mad, sad, glad, peut-être vous connaissez aussi. Qu'est-ce qui m'a mis en colère, qu'est-ce qui m'a rendu triste et qu'est-ce qui m'a rendu content lors de la dernière itération. Le 4L ici, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a manqué et qu'est-ce que j'aimerais pour le futur? Ou alors tout simplement une timeline. Reprenez vos 2 semaines de sprint et puis quels ont été les événements marquants. Et puis on en discute. Finalement, tout ce qui est fait en rétro, c'est juste pour ouvrir des discussions. Hein. Pas plus que ça. Sauf que moi, quand je fais un mat, sad, glad, il est différent des autres. Voilà. Mat, sad, glad avec des chats. C'est rien, c'est juste rigolo. Ça coûte rien, mais ça fait encore une fois un aspect visuel assez sympa. Celle-là, j'en suis hyper fière. Une de mes équipes, dedans, il y a un tech lead qui est fan du Stade Rennais, fan de foot et du Stade Rennais. Ça tombe bien, je m'y connais bien en foot aussi, donc on peut discuter. Je parlais de rétro à thème tout à l'heure, et il m'a mis au défi de faire une rétro à thème Ben Arfa. Alors, j'ai mis le temps, hein. Mais je l'ai faite, la rétro à thème Ben Arfa. Alors, en gros, de gauche à droite, banquette, c'était ce qu'il fallait, moins 2, c'était le moins 2. L'incroyable retour, c'était le continuer. Comme un messie, c'était le commencer. Et le clash, c'était le arrêter. Toutes ces lignes de l'équipe, je les ai faites moi-même. Hein. Forcément, elles n'existaient pas. Non, elles n'existaient pas. Voilà. Et puis à ça, j'ai ajouté un petit K-out rigolo. Donc K-out, c'est un petit quiz, en fait, des quiz en ligne, où je raconte un petit peu la vie de Ben Arfa avec quelques anecdotes. Et c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Et puis je marque des points, quoi, sur le meilleur Scrum Master du monde, quand même. Il y a des rétros épiques. Vous avez peut-être déjà vu sur Internet. En fait, vous pouvez faire des rétros n'importe où. L'idée est toujours de discuter. Donc, on peut faire des jeux de rôle. On peut utiliser des jeux de rôle. On peut se mettre à la place des autres, tout simplement. C'est déjà un premier jeu de rôle. Jean-Louis va se mettre à la place de Michel, qui va se mettre à la place de Gérard, etc. C'est déjà un commencement de jeu de rôle. On peut aller dehors. Ça, c'est cool d'aller dehors. Parce que dehors, en fait, on sort du contexte de travail. On peut discuter d'autres choses. En même temps, on peut faire des choses un peu différentes, physiques, par exemple, des petits jeux avec des balles, des choses comme ça. Et c'est très sympa d'aller dehors. D'ailleurs, Jean-Pierre Lambert, qui fait Scrum Life, peut-être que vous connaissez, qui fait des vidéos YouTube, avait fait un billet de blog sur une rétro qu'il avait fait en extérieur, qui est vraiment intéressante. Donc, plutôt l'été. Hein. Le team building, il y a plein de jeux de team building. Peut-être que c'est pas vraiment de la rétro dans le sens où on va pas aller chercher des actions à la fin, mais des fois, c'est important de remettre l'équipe en cohérence. Et pour le coup, une rétro, c'est un temps qui est différent du temps de travail classique. Alors à ce moment-là, vous savez, vous avez 2 heures devant vous, profitez-en pour faire autre chose. C'est pas grave, des fois, on a juste besoin de faire autre chose. Un exemple de rétro épique, c'est Octo. Alors, c'est un de mes concurrents, Octo. Hein. Ils font la même chose que nous. En moins bien, forcément. Je rigole. Caméra. Octo a fait un truc génial, qui est la rétro dont vous êtes le héros. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Imaginez, il y a eu une attaque de zombies lors du dernier sprint et l'équipe, elle a survécu. Ils ont transformé tous leurs bureaux, leurs espaces de travail pour en faire des pièces différentes. Donc, il y a l'infirmerie, il y a la bibliothèque, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a. Et en gros, dans l'infirmerie, vous allez essayer de chercher qu'est-ce qui va vous aider à survivre. Et là, on revient dans la rétro, de quoi a-t-on besoin ? Il y a dans la bibliothèque, on va aller chercher des connaissances, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et ils ont même mis en open source tous les visuels qu'ils ont utilisés pour ces rétros. Donc si vous avez le courage, transformez votre bureau entier en salle de rétrospective. Ça doit durer assez longtemps, hein, mais c'est excellent. Vous pouvez faire des posters en fait, qu'ils ont mis à disposition. Et puis vous avez tout le pitch, en fait, tout le pitch présentateur. C'est voilà, celle-là, je vais la faire un jour. Je ne sais pas quand, mais je vais la faire. M6 Web, c'est leurs équipes de développement. Ils ont profité en fait de la sortie de cette émission. Bon, moi, je ne l'avais pas vue, mais peut-être vous connaissez. Garde à vous, c'est apparemment une télé-réalité, plus ou moins dans l'univers militaire. Et ils ont profité de cette sortie pour faire une rétro garde à vous. Le Scrum Master a transformé encore une fois tout le bureau. Il y avait quatre activités. Il y en avait deux qui étaient physiques et il y en avait deux qui étaient plus sur vraiment la rétrospective de sprint. Donc la première, vous allez parler, je ne sais plus exactement, il faudra aller voir, je vous ai laissé les liens, mais vous allez parler de la dernière itération, vous allez mettre des post-it. Puis la deuxième, il faut shooter des canards avec des nerfs, par exemple. Ça ne sert à rien, je suis complètement d'accord. Mais voilà, ça fait du bien. Et donc sur leur carte, quatre épreuves, ils ont réussi à sortir les améliorations, les problèmes et les améliorations, et puis ils ont réussi aussi à faire baisser la pression de cette équipe. Moi, je trouve que c'est une super idée. On peut aussi tout simplement changer les formats. Alors, la classique rétro, c'est quoi ? Pendant 5 minutes, on va réfléchir tout seul dans son coin, on va écrire sur des post-it ce qu'on a à dire sur la dernière itération. Ensuite, on va chacun aller au tableau, poser notre post-it, expliquer pourquoi est-ce qu'on a dit ça. Okay. Ensuite, on va regrouper les post-it selon les thèmes, parce que souvent des choses reviennent. Ensuite, on va débattre de chacun de ces thèmes. On a dit ça, ouais, machin, moi je suis pas d'accord, ok. On débat. Ensuite, on va se dire, bah tiens, on pourrait faire ça pour améliorer, donc on va trouver les solutions. Ensuite, on va voter pour dire, tiens, laquelle action on prend parce qu'on ne peut pas toutes les prendre, etc. Bon, c'est toujours pareil. Du coup, si on change tout simplement ce format-là, qu'on ne le faisait pas dans ce sens-là, et qu'on le faisait un petit peu différemment. Eh ben, exemple, le speed dating. Vous retrouvez, plutôt que tout seul devant votre post-it, à deux, en binôme. Vous allez choisir chacun un thème, vous et votre binôme, et puis on va commencer à la discussion. Moi, je commence avec mon thème, je vais parler pendant 5 minutes avec mon binôme. Pendant 5 minutes, on va en discuter, on va essayer de trouver des choses pour améliorer, des solutions, etc. Puis au bout de 5 minutes, on passe au sujet de mon binôme, et ainsi de suite. Comme ça, on va se retrouver avec chaque groupe de deux qui va nous présenter une problématique et puis sa solution. Peut-être que d'autres auront la même problématique dans les autres binômes. Peu importe, confrontons les idées, c'est ça la rétro aussi. Donc juste changer le format, voilà, ça dynamise un petit peu, ça change de l'habitude. Il y a le format fishbowl, plus difficile à mettre en place sur les gros groupes. Ça c'est le fishbowl, vous avez peut-être vu ça sur certains événements. On va mettre en fait 4 chaises au milieu de la place, l'endroit où on est. Et puis il y aura 3 personnes assises sur ces chaises. La 4e chaise est vide. Les 3 personnes qui sont là ont le droit de discuter sur le sujet qu'elles veulent. Vous, facilitateur, vous laissez vivre la discussion, c'est tout. Quand quelqu'un veut interagir avec cette discussion, va se lever, les autres sont autour, va se lever, va aller s'asseoir à la chaise vacante, et une des personnes qui sont déjà là doit sortir. Si, enfin pas d'ici d'ailleurs, quand elle sort, la discussion peut reprendre. D'accord ? On ne peut être qu'à trois à discuter. Et ça, c'est assez sympa. Bon, difficile quand les gens sont assez timides, ne vont pas se lever, ne vont pas y aller. Mais c'est assez sympa sur des formats de très grands groupes, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours des gens qui vont venir discuter. Par contre, elle peut être très excluante, dans le sens où, moi, par exemple, je n'irai jamais au milieu de 50 personnes discuter sur une chaise, clairement. Mais il y a des gens chez qui ça fonctionne bien. Et puis, tout simplement, la discussion libre. C'est un format, moi, que j'apprécie beaucoup. La discussion libre, c'est juste, oublions les post-it, asseyons-nous, oublions les tableaux, et puis discutons tout simplement. Ça permet en fait d'alléger d'alléger un petit peu la réunion, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'obliger à réfléchir tout seul, on ne va pas s'obliger aux post-it et tout ça. On va juste faire une discussion qui va glisser, qui va couler, et des fois, c'est tout ce dont on a besoin, pas plus. On n'a pas besoin d'alourdir les choses. Donc le format discussion libre est vraiment, vraiment sympa. Attention, en tant que facilitateur, de ne pas se laisser embarquer dans des discussions sans fin, des discussions sans but. Et puis aussi, attention, en tant que facilitateur, à bien faire participer tout le monde. Parce que souvent, dans une discussion, vous avez celui qui parle plus, celui qui a la plus grosse voix, celui qui a toujours raison, celui qui croit qu'il est le chef, etc. Donc votre boulot de facilitateur dans la discussion libre, c'est de faire en sorte que tout le monde parle, même celui qui est tout recroquevillé et qui dit jamais rien. Pourquoi faisons-nous des rétrospectives ? Voilà. Vous mettez ça écrit en grand dans votre salle et puis vous attendez de voir ce qui se passe. C'est très intéressant le format rétro de rétro parce que finalement, moi, Scrum Master qui organise des rétros, j'ai pas forcément toujours raison. Hein. Et puis peut-être que mes rétros ne conviennent pas à mon équipe, hein. Peut-être que c'est trop embêtant, peut-être que c'est trop fou, peut-être que c'est trop long. Voilà. Donc moi aussi, j'ai le droit de me remettre en question. Donc posons cette question. Et on arrive à des choses assez philosophiques, hein, c'est marrant, parce qu'on parle évidemment de la forme. Mais aussi, on va parler sur, finalement, la rétrospective. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Est-ce que nous, on va vraiment au bout du process ? Est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose ? Est-ce qu'il faut continuer ? Donc, cette question, en fait, vous amène à introspecter l'intérieur de l'équipe. Super intéressant. Vous connaissez les définitions du done et du ready ? Ouais, non ? Bof. Bof, allez, on réexplique vite fait. Dans l'informatique, là, c'est vraiment assez spécifique, pour que un ticket, donc ce qu'on va nous demander, le petit morceau de travail qu'on va nous demander de faire, pour qu'il soit prêt à être implémenté, donc à être fabriqué, eh bien, il nous faut certaines choses. On a besoin d'informations en entrée. Ces informations en entrée, on s'est mis d'accord avec notre client, représenté par notre product owner, pour les avoir dans une certaine forme. Par exemple, il me faut des maquettes, il me faut des règles de gestion, il me faut ceci, cela. Et on se met d'accord et on a un contrat tamponné, définition du ready. Et puis on a la même sur la définition du done. Quand est-ce que c'est terminé ? Est-ce que c'est terminé parce que j'ai fait mes tests ? Est-ce que c'est terminé parce que ça a été mis en production, c'est utilisé par notre utilisateur final ? Finalement, mettons-nous d'accord. Donc, ces deux définitions sont un contrat passé entre nous, équipe, et puis notre product owner. Je regarde bien. Parfait. Profitons de la rétro pour retravailler ces définitions. Alors, ce n'est pas des choses à faire toutes les deux semaines non plus, mais définition du done et du ready, les retravailler, c'est quand même une bonne pratique des équipes Scrum et des équipes agiles en général. Il existe des petits jeux pour ça. Moi, j'ai un jeu de cartes qui est pas mal, qui donne plein d'idées en fait de qu'est-ce qu'on a besoin dans le ready, qu'est-ce qu'on a besoin dans le done. Les équipes jouent en fait aux cartes, se mettent d'accord sur tiens ça, on pourrait le demander à notre PO. Ça, non, on n'en a pas besoin, c'est pas dans notre contexte, ça fonctionne pas, etc. Et vous avez largement besoin d'une heure et demie, deux heures pour retravailler les définitions en général, parce que c'est pas fait très souvent. Et du coup, c'est bien de remettre ça de temps en temps à jour. Notamment quand la structure de vos équipes change ou qu'un nouveau product owner arrive. et tromper de bouton. Les valeurs agiles. Alors ça, c'est notre meilleur outil de triche, les valeurs agiles, en tant que Scrum Master qui veut varier ses rétros. Le manifeste agile, ça vous connaissez, hein ? Oui, forcément. Les individus et leurs interactions, les logiciels opérationnels, tout ça. Prenez-en une. Allez, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, ma préférée, moi. Et avec votre équipe, vous allez parler de ça. Donc là, on ne fait pas une rétro sur ce qui s'est passé, on fait une rétro sur nous-mêmes et les valeurs agiles. L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, comment nous, équipe, on répond finalement à cette valeur agile. Et on va non pas améliorer notre fonctionnement actuel, mais on va peut-être améliorer le côté vraiment culture agile de l'équipe. Donc comment est-ce qu'on peut s'adapter mieux plutôt que sur un plan ? Là, vous avez déjà 4 rétros. D'accord ? C'est gagné, là. Et j'ai mieux. Les 12 principes agiles. Allez, bim. 12 rétros, là, de gagner. D'accord ? Ça fait une par mois, ça fait quasiment un an. Bon, si vous faites ça tous les mois, ils vont gueuler, hein, vos équipes. Mais, de temps en temps, voilà, prenons une ou deux valeurs agiles. Et puis, discutons-en. C'est intéressant, hein ? Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. En quoi est-ce que nous, notre équipe, on répond à ce principe agile ? Et là-dessus, vous avez vraiment de quoi discuter, hein, parce qu'on s'améliore aussi sur la culture agile, sur la façon d'utiliser l'agilité dans notre équipe. Donc, c'est toujours bien aussi de se remettre en question sur notre méthode. Ça marche aussi avec les 5 valeurs Scrum. Ça, c'est de la vraie triche, hein, pour le coup. Voilà, c'est quoi le courage dans notre équipe, etc. Et là, le corps de la rétro est terminé. Donc là, je pense que vous avez déjà pas mal de matière, si vous êtes Scrum Master en fonction, déjà pour avoir un petit peu de différence à chaque fois. Maintenant, on arrive à la fin de notre rétro, on a des actions, et il y en a plein d'actions. Super. Laquelle on prend ? Alors là, vous allez me dire, dot voting. Ouais, bah non, moi je suis pas d'accord. Dot voting, ça me plaît pas. C'est quoi une action ? Une action, c'est un verbe d'action. On va faire tel truc, c'est avec un verbe. Un porteur, donc il faut une personne qui soit garante de l'action, sinon l'action ne se fait pas. Et une deadline, donc un délai pour la mettre en œuvre. Ça peut être le sprint, ça peut être un mois, trois mois, peu importe. Faut pas non plus que ce soit à 2 ans, hein. Mais voilà. Voilà, c'est ça une action. Mon exemple là, améliorer la visibilité de l'équipe, c'est pas une action. Qui le fait ? Comment on fait ? Comment j'améliore la visibilité de l'équipe ? Je fais quoi ? J'achète des essuie-glaces ? Ça marche pas du tout. Alors que le PO nous fera un résumé de chaque codir, parce qu'il est le seul à y participer, pour améliorer notre visibilité à nos équipes, ça c'est une action. Il y a le PO qui est porteur, à chaque codir, bah, on peut dire qu'on a une deadline parce qu'au prochain codir, on aura notre résumé. Donc c'est bon, c'est une bonne action. Ça peut être pris. Donc comme je disais, on ne peut pas tout faire, puisque souvent en rétrospective, on a 15-20 actions qui sont sorties, un petit peu de nulle part des fois. Donc bah, déjà, on est sûr qu'on a une vraie action et pas seulement un vœu pieux, on va dire. Alors allons-y, comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Donc le défaut, comme je vous disais, du vote par point, le dot voting que j'aime pas, c'est que déjà, il influence les gens. En général, les personnes, quand elles vont aller voter, elles vont avoir tendance à suivre les autres, à mettre un point au même endroit que les autres. C'est une influence, c'est comme ça, c'est notre cerveau fait comme ça. On va plus voir là où il y a déjà des points que les autres. Si ça se trouve, on va même pas aller voir les autres, même pas les lire, en fait, tout simplement. Et puis aussi, ça décourage. Ça, c'est le classique du « Ouais, de toute façon, moi, je ne vais pas voter parce que tu parles, je suis une voix contre vous, vous êtes 40 millions. » Ça ne sert à rien. Bah ouais, ça décourage. C'est parce que moi, j'ai mes 3 points et je vois déjà qu'il y a plein d'actions qui ont déjà 8 gommettes chacune. Même mes 3 points, même si je les mets sur mon action préférée, c'est mort. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi je n'aime pas le dot voting. Alors, qu'est-ce que je fais ? Bah, autre chose. La matrice pain-gain, alors, de l'anglais. Douleur, gain. Ça veut rien dire en français, c'est nul. En gros, la complexité et puis ce que ça va nous apporter. Rangez vos actions dans ce tableau. Est-ce que ça nous coûte cher ? plus ou moins, donc oui ou non, et est-ce que ça va nous apporter beaucoup? Et puis dans ce cas-là, vous ne prenez que les actions qui se retrouvent dans le carré en bas à droite. Voilà. La matrice Penguin, c'est un outil de décision qui est utilisé, là je vous montre pour les actions, mais qui peut être utilisé pour tellement de choses, pour prioriser un backlog, pour prioriser ce qu'on va faire le plus rapidement, etc. Pour prioriser peut-être aussi tout simplement les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Des fois, on a des idées qui vont nous coûter très cher. Finalement, elles rapportent peu. Est-ce que vraiment, on doit aller au bout de ce projet? On peut peut-être s'arrêter un petit peu avant. Oui. Pardon. Alors, la question est, la matrice est intéressante, mais comment fait-on pour choisir les cases? Oui, on va placer des post-it dedans. Donc ça, là, c'est comme ça, mais en vrai, vous allez faire un grand board, abscisse ordonnée. Et puis, pour choisir, il va falloir qu'il y ait un consensus aussi sur le choix. Donc là, c'est encore un autre exercice. On va prendre un à un les post-it. Alors, à vous, hein, animateur, après, de trouver la solution. Est-ce qu'une personne va prendre les post-it, les mettre, et puis demander l'accord de tout le monde? Est-ce que, vous verrez, j'ai un autre truc juste après. Est-ce que tout le monde va mettre anarchiquement les post-it? À vous de voir. Est-ce qu'on fait plusieurs tours pour se mettre d'accord? Est-ce qu'on en discute? Est-ce que, voilà. Là, c'est vraiment un jeu d'animateur derrière. Le vote romain. Le vote romain. On va parler des actions, on va en prendre une, et puis on va demander aux gens de voter. Soit je veux qu'on la fasse, soit je ne veux pas qu'on la fasse, soit je m'en fous, je ferai comme vous dites. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est encore une fois quelque chose qui est simultané, donc on ne peut pas tricher. C'est aussi pas mal parce que vous pouvez avoir un droit de veto sur le moins. Là, c'est à vous, animateur, de choisir. Vous pouvez mettre un droit de veto sur le moins, ce qui peut compliquer vos accords, parce que s'il y a un droit de veto sur chaque action, forcément, il n'y aura pas d'action. Donc, à vous de voir. Mais c'est intéressant, notamment sur la simultanéité et le fait qu'on ait le droit de ne pas avoir d'opinion. Voilà, des fois, on n'en a pas. Et mettre un point, ce n'est pas forcément évident. Donc, le vote romain, très rapide, super pratique. L'estimation magique. Et là, on va reparler un petit peu de choix. Ça a un autre nom anglais, je ne sais plus lequel c'est. En gros, je place mes post-it sur une sorte de matrice qui est du moins pertinent au plus pertinent. Moi, je fais ça en jeu. Le premier tour, vous n'avez pas le droit de vous parler. Chacun a le droit de bouger les tickets. Jusqu'à la dernière seconde, je vous laisse 30 secondes. Débrouillez-vous et faites-moi un ordre. Donc là, c'est très drôle. Les gens vont se battre. Et le plus malin va prendre son ticket à la dernière seconde et le remettre devant. Et du coup, il a gagné. Voilà. Et à la fin, vous demandez, est-ce que tout le monde est d'accord? La réponse sera non. Je spoil, la réponse sera non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, prochain tour, on va faire la même chose, sauf que vous avez le droit de vous parler et que je vous laisse une minute. Et là, en fait, les gens vont commencer à négocier, etc. Voilà, se mettre d'accord tous ensemble. Au bout d'une minute... Est-ce que vous êtes tous d'accord? Souvent, c'est oui. Si jamais c'est pas oui, on relaisse une minute, la même chose. Et voilà, la troisième est toujours bonne. Hein. Ça marche à tous les coups. Donc là, je vous parle de ça dans le cadre des actions de rétro. Évidemment, vous pouvez l'utiliser dans d'autres choses. L'estimation magique, on l'utilise notamment pour faire de la priorisation de backlog en début de projet. Et vous avez des articles sur Internet, comment estimer un backlog de 50 US en une heure. C'est ça, en fait. C'est l'estimation magique. Donc ça, c'est un truc que vous devez avoir dans votre boîte à outils d'agiliste, de Scrum Master. Parce que pour organiser, prioriser, c'est vraiment magique. Ça porte bien son nom. Donc maintenant qu'on a trouvé nos outils de vote, eh ben on va parler des outils de feedback. Donc pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le rôti de rétro, eh ben il fallait trouver autre chose. Pourquoi j'aime pas le rôti? Parce qu'il est biaisé. En gros, je mets 5, parce que j'ai pas envie de me justifier. Je mets 4 parce que la perfection n'est pas de ce monde. Je mets 3 parce que je sais pas. Je mets 2. Je mets 1 parce que je t'aime pas, parce que j'aime pas comment t'es habillée, parce que tu m'as dit ce matin, tu m'as pas tenu la porte, parce que voilà, je t'aime pas. Voilà un petit peu comment ce vote peut être biaisé, le rôti peut être biaisé. Donc, j'utilise pas. J'ai autre chose. Ça, par exemple, le Perfection Game. C'est écrit, donc vous avez préparé vos petits papiers en avance. Et sur le petit papier, c'est écrit exactement ça. J'aurais mis 10 sur 10 si tu avais fait ceci, cela. Ça, je récupère ici mes axes d'amélioration. Mais j'ai mis 8 sur 10, disons, car il y avait ça, 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 et ça, c'était cool et tout. Donc là, vous avez vos points forts. C'est bienveillant, c'est positif, d'accord ? Et en plus, bah, ça vous donne vraiment vos feedbacks qui sont circonstanciés, quoi. C'est pas juste... Voilà, il y en a vraiment de la matière derrière. Le feedback d'or, derrière, vous en avez un. Moi, j'aime bien le mettre sous forme abscisse ordonnée, comme ça. Alors, sachant que abscisse ordonnée peuvent avoir vos critères à vous. Ici, on a fun et apport. Ça, c'est un feedback d'or qui avait été mis sur une conférence à Gilles Nantes. Voilà. Et donc vous avez voilà, le fun et puis ce que j'ai appris, c'est en général les plus courants, mais vous pouvez mettre autre chose si ça vous amuse. Le but étant évidemment d'avoir un maximum de croix en haut à droite pour le coup, du mal avec la gauche et la droite. Voilà. Alors ça c'est bien quand on a des grands groupes, parce que ça n'apporte pas de feedback. C'est vraiment une note quoi, plus ou moins. Alors c'est une note déguisée, mais c'est quand même une note. Donc dans les grands groupes, vous n'avez pas vraiment l'occasion de récupérer des feedbacks vraiment constructifs. Voilà, ça peut être sympa. C'est un petit peu ce qui va se passer tout à l'heure quand vous sortirez d'ici et que vous mettrez tous des croix sur le petit bonhomme qui sourit. Eh bien, voilà, je serais contente de voir le petit bonhomme qui sourit. En même temps, je n'aurai pas non plus de feedback. Donc j'ai des cheveux rouges, vous pouvez me retrouver toute la journée et puis me dire ce que vous avez pensé de cette conf. Ce sera plus constructif pour moi. Le rôti Amazon, voilà. Celui-là, il est fabriqué aussi à partir du site Amazon, tout simplement. Vous coloriez les croix, donc 1, 2, 3, 3,5, 4, c'est bien, on peut avoir des et demi. Et puis en dessous, un commentaire, comme si vous étiez un client Amazon. Voilà, j'ai testé la rétro de Séverine et c'était bien, c'était nul, c'était chiant, c'était voilà. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est anonyme et gratuit. Donc le fait que ce soit anonyme aussi est assez intéressant parce que vous pouvez avoir des vrais feedbacks. Et ben, on est en avance. Mais c'est normal parce qu'on a commencé en avance. En conclusion, une rétro, et ben, c'est un vrai workshop, c'est un vrai atelier. C'est pas juste une heure parce qu'il faut. C'est pas juste passer le temps parce qu'on nous a obligés, parce que Scrum il a dit que. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important qui va permettre d'abord, à mon avis, à l'équipe de souffler et de sortir du contexte de travail classique. Comme je vous le disais, hein, c'est vraiment un moment où on peut se permettre de faire des choses différentes. Et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Donc, je prépare. Je prépare énormément, j'y prends du temps, beaucoup de temps. Hein. Ça m'est arrivé de passer 2 jours à préparer une rétro, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas fabricant. Mon boulot, c'est de faire en sorte que l'équipe, elle soit bien, elle vive bien. Donc, si je dois passer 2 jours à préparer ma rétro, ça me choque absolument pas. Et je dis pas ça parce que je suis consultant. Il faut partir du résultat que vous voulez obtenir. Donc moi, souvent, je dessine en fait le résultat que je veux obtenir. Voilà, si à la fin je veux un tableau avec je sais pas, des post-it ou pas, hein, je suis pas très fan des post-it non plus, donc voilà, je veux un tableau, je veux un dessin, je veux peu importe, je vais le dessiner pour le visualiser et à partir de ce dessin du résultat, je vais revenir en arrière pour essayer de voir bah, tiens, quel atelier je fais, dans quel sens, quel vote, quel feedback, etc. Je vais tout réfléchir à l'envers. Et je suis toujours la trame de rétro parce que le but est quand même là. Le but de la rétro, c'est pas que de s'amuser, c'est aussi d'avoir des actions qui vont pouvoir être implémentées donc pas des actions fantômes qui vont garder dans la tête pendant 2-3 jours et qui seront oubliées après, mais des vraies actions qui vont changer la vie de l'équipe. Et quelques petits conseils. Donc, comme vous l'avez vu, moi, je prends soin de l'image. J'utilise des banques d'images gratuites. J'utilise des logiciels de retouche d'images. J'anime énormément. Dès qu'il y a quelque chose à animer dans une boîte, bah, je le fais. Même j'en fabrique des choses à animer. Voilà, je fais des workshops, je fais des BBL, je fais des choses. J'aime bien ça. Et en même temps, ça me fait grandir. Ça me fait devenir meilleur. Passer une heure devant vous aujourd'hui, ça me fait grandir quelque part. Donc, faut y aller, faut faire ça énormément, parce que plus on le fait, plus on va avoir des automatismes et plus en fait nos prochains workshops seront bien faits finalement. Parce qu'on va toujours oublier un truc, on va oublier, tiens j'ai oublié le feedback, tiens j'ai oublié qu'entre tel et tel moment il y avait des gens qui faisaient rien, etc. Donc on va toujours apprendre en animant. Déléguer, ah, c'est bien de déléguer, parce que quand on est Scrum Master, le but de notre poste, de notre rôle, c'est d'être inutile. Donc si je fais toujours les rétros et que je fais ça très bien et que je laisse pas les autres faire, bah, ça sert à rien. Donc déléguer, c'est aussi avoir un regard avec un peu de recul et puis vous rendre compte que tiens, je peux apporter en fait des choses, je peux aider à fabriquer et moi-même je grandis. Et en plus, quand je délègue, je peux recevoir des fois des très très bonnes idées des autres. Ça m'est arrivé récemment. J'ai aidé une équipe à se sortir du Scrum Mastering, donc moi, je devenais inutile. Débrouillez-vous sans moi. Et une personne a pris la rétro à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ces personnes prennent la rétro. Et elle a fait un truc formidable, une rétro wesh. Voilà, au mode de, je ne sais pas, moitié rap, moitié racaille, moitié... Enfin, c'était terrible. Et ça s'est super bien passé. Et vraiment, j'ai été très, très agréablement surprise. Et le fait de déléguer, je l'ai juste aidé à rester dans les clous de ce que c'est une rétro. Et ça a été vraiment très bien. Donc on a aussi beaucoup, beaucoup de plaisir à accompagner les autres. Bah, s'inspirer, hein, vous avez vu toutes mes inspirations. Il y en a tellement d'autres. Sortir des sentiers battus, faut pas... Voilà. Faut y aller un peu fou. Hein. Scrum Master, normalement, amène une touche d'originalité. Donc n'hésitez pas, allez dehors, faites des choses bizarres, amenez des chapeaux et des confettis. Passez pour fou auprès de la boîte, c'est pas grave, ça c'est notre boulot, on assume. Et puis n'ayez pas peur du rôti de rétro, mais maintenant que vous n'avez plus de rôti de rétro, vous n'avez plus en avoir peur, parce que vous avez plein de choses tellement mieux. Je vous ai mis une bibliowebographie, ces slides seront disponibles dès que j'aurai 2 minutes là, dans la journée sur SpeakerDeck. Voilà, je mettrai un petit truc sur Twitter. Je remercie les orgas. J'étais très étonnée de ce casting sauvage auquel j'ai eu la chance d'être prise en fait. Voilà, normalement on remplit des CFP puis des call for papers et puis on est choisi ou pas. Et là j'ai carrément été castée au mois de novembre à l'Agile Tour Bordeaux. Donc voilà, merci beaucoup les orgas. Et puis les sponsors, forcément. Et une deuxième page, donc là je dois meubler en fait pour que vous puissiez lire les sponsors. Et meubler, vous voyez, ça marche très très bien. C'est tellement simple en fait. C'est bon ? Oui. Je termine quand même parce que j'ai fait un beau diaporama jusqu'au bout. Hein ? C'est gentil. Pascal ? Merci et bonne rétro à vous. Et on a un petit peu plus de 10 minutes, je crois, pour les questions. Oui. Alors, dites la question, puis je vais répéter au micro. C'est pour les... Oui, sur l'estimation magique. Je vais déjà la traduire celle-là. Est-ce qu'on a déjà utilisé l'estimation magique sur 2 axes, donc un axe de pertinence et un axe de temps, par exemple ? Ok ? Ok. La deuxième question étant, est-ce que c'est difficile d'utiliser ces matrices à deux axes? Est-ce que ça perturbe pas finalement un peu les équipes? Alors, la première réponse est non. L'estimation magique, j'utilise toujours en linéaire unique parce que finalement, ça va être inclus dedans. Si on dit, alors là, j'ai mis moins pertinent, plus pertinent, mais ça peut être du plus simple au plus complexe. Après, peu importe, mais il y a une échelle finalement. Et tout ça va être inclus dedans. Donc les gens vont voir que finalement, ce truc-là, c'est bien, mais on va avoir quelqu'un qui va dire, mais ouais, mais c'est super compliqué, on peut peut-être, je sais pas, le faire plus tôt, le faire plus tard, enfin, etc. Donc en général, ils s'auto-organisent. Ça marche bien. Sur les matrices de niveau, de problèmes, non, pas vraiment de problèmes. C'est surtout, les problèmes sont surtout des désaccords. Certains vont trouver certaines choses complexes, mais dans la complexité, ils vont y mettre le temps. Alors que moi, dans la complexité, je veux qu'il y ait que de la complexité, par exemple. Ce n'est pas forcément un problème de temps. L'exemple classique, c'est faire du mapping de 2000 lignes de code. Mapping, c'est mettre une donnée dans une autre donnée. Ça, c'est un truc très classique en informatique. On prend une donnée, on la met dans une autre qui va se balancer ailleurs. Voilà. Faire 2000 lignes de mapping, c'est très simple. Un gamin peut le faire. Mais c'est très long et très fastidieux. Donc finalement, la complexité, pour moi, elle est de zéro, mais le temps est très long. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça, qu'on ne confonde pas les autres, les deux, le temps et complexité. Mais sinon, ça se passe bien, en général.
Est-ce que tu limites dans le temps tes rétrospectives? Est-ce que tu fais t'as une part, tu mets un timer? Est-ce que tu veilles à garder, enfin, à ce que ça ait une durée minimale, une durée maximale? Comment est-ce que tu gères le timing de tes rétros?
Oui, évidemment. Une des premières vertus de l'agilité, c'est commencer et finir ses réunions à l'heure. Donc, évidemment. Comment on gère? Il y a en général des espèces d'habitudes qui se font, dit 10% d'icebreaker, 20% de génération d'idées, 30%. Enfin, voilà, il y a des pourcentages en fait pour chaque morceau de la rétro. Je ne connais pas par cœur. Une rétro, pour moi, c'est assez long, mais pour certaines équipes, ce n'est pas possible. Donc en fait, on s'adapte toujours aux équipes. Certaines équipes qui se connaissent très bien, qui sont très peu, 40 minutes leur suffisent largement. Moi, j'aime bien après faire aller jusqu'à 2 heures. Ça ne me gêne pas plus que ça parce que c'est fun et parce que ce n'est pas une réunion où tout le monde est assis. Hein. En général, dans les rétros, on se lève, on discute, on fait plein de choses. Donc, je m'adapte. Donc, il n'y a pas vraiment de temps. Par contre, quand je design la rétro, tout est timé. Mais alors à la minute, hein. Puis en plus je suis maniaque sur ce coup-là. Donc tout est vraiment, vraiment timé, toujours. Rétro ou workshop, atelier quelconque, toujours. Oui. À la mise en place, alors la question est à la mise en place des méthodes agiles, est-ce que la rétro c'est utile? La conf d'après, ok. Oui, c'est alors quand on met en place l'agilité, voilà, en général déjà c'est une culture, c'est plein de choses, hein, donc c'est pas juste une rétro et hop, on est agile. Ça c'est du faux scrum, on appelle ça. Mais en effet, le but de la rétro, c'est l'amélioration continue. Et l'amélioration continue, elle est clairement dans les valeurs agiles, dans les principes agiles, qui dit que régulièrement, on va chercher à s'améliorer, en fait, à améliorer nos process, éventuellement nos outils, et puis surtout notre façon de travailler ensemble. Donc oui, je pense que ça peut être une bonne pratique, ne serait-ce que pour la culture. Se dire que finalement, on a le droit de prendre 1 heure, 2 heures de notre temps de travail pour ne pas travailler, mais faire en sorte qu'on travaille mieux, finalement. Donc, à mon avis, ouais, c'est un truc à mettre en place dès le départ pour la culture. Alors, la question est sur le speed dating. À quel moment on partage et à quel moment on reste finalement en binôme? Sur le speed dating, en général, je fais la génération d'idées. Et jusqu'à la solution, jusqu'à rechercher une solution à deux. et puis ensuite partager au groupe. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas deux personnes qui vont décider de ce que va faire l'équipe pendant les prochaines semaines, d'accord? À mon avis. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord, parce que deux personnes peuvent être assez extrémistes sur une bonne pratique quelconque, et puis dire à partir de maintenant on va faire comme ça, les autres vont pas forcément adhérer. Donc, agilité, c'est aussi beaucoup consensus, parce que si on force des choses, ça n'arrivera pas. Donc, je m'arrêterai à la recherche de solutions, présenter nos solutions qu'on a trouvées tous les deux, et puis mettre au vote ou au consensus. Ok. Il y a 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, sinon on va prendre un café. C'est ça, oui. Je répète la question. On parlait tout à l'heure d'action à prendre et la question est, pour raccourcir un petit peu le cycle, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord choisir les thèmes sur lesquels on va prendre des actions plutôt que prendre toutes les actions et choisir là-dedans ? Oui, pourquoi pas ? Par contre, il faut que tout le monde, encore une fois, soit d'accord. Donc, on peut très bien sortir des thèmes quand on fait nos recherches de plus et de moins. On va sortir des thèmes qui sont négatifs ou qui sont positifs. N'oublions pas les positifs. Il peut aussi y avoir des actions pour les pérenniser. Telle chose s'est bien passée, tiens, continuons comme ça. Et puis, à ce moment-là, se dire, oui, quels sont les thèmes les plus importants ? Et puis, peut-être, ne parler que de cela. On va gagner du temps, en effet. Après, il y a aussi la possibilité de faire des rétros plus thématiques, qui pour le coup, on n'aura qu'un seul thème, et là on pourra vraiment aller en profondeur à ce thème. Donc oui, peu importe, c'est vrai que ça peut être fastidieux de chercher 15 actions sur 15 thèmes différents, c'est vrai qu'on peut peut-être couper directement à 3. Pourquoi pas ? Après il y a des équipes qui aiment bien avoir plein d'actions qui vont se transformer en bonnes pratiques. Des fois c'est pas des actions, c'est bonnes pratiques. Donc ça peut être aussi intéressant des fois d'avoir beaucoup plus de choses, et qui finalement vont aller dans la colonne des bonnes pratiques à suivre, et pas forcément des actions à mettre en place. Oui. Est-ce que j'ai d'expérience avec des équipes délocalisées ? Comme je le disais en intro de ce speech, je travaille actuellement en bilingue, tu vois, français-anglais. Donc oui, c'est pas le top. C'est ça la question en fait. Comment on fait des rétros avec des équipes délocalisées ? Ben écoute, c'est le thème de la prochaine communauté de pratique que je vais animer dans ma boîte, dans la boîte où j'ai ma mission. C'est compliqué. Aujourd'hui, on est obligé de le faire. Moi, je le fais depuis un an. Ça passe par un outil en ligne qui s'appelle Fun Retro, voilà, qui est juste des cases que vous remplissez. Et puis, en fait, vous remplissez des deux côtés. Et puis, on voit les tickets que vous mettez, etc. C'est pas le top parce que rien ne remplace la communication physique. Donc on essaye de s'adapter. Moi, ce que je préconise, c'est les déplacements. Enfin, c'est con, mais nous, c'est Nantes et Paris. Finalement, il n'y a que 2 heures de train. Si possible, on se retrouve le plus souvent possible. Donc, une fois tous les 2 mois, admettons, une rétro tous en commun. Et pour le reste, Fun Rétro, qui nous empêche de mettre des photos, par exemple, donc c'est plus difficile. Donc, en général, je partage mon ordi avec mes photos rigolotes sur la canicule. Bah, je l'avais partagé avec Paris. Puis, j'essaye de faire en sorte que les autres se sentent intégrés à la rétro, mais c'est super compliqué. C'est clair. Mais on est obligé de passer par là maintenant. Il est 59, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie. Et bonne journée.